grève, 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow with your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. Your midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Montague, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do it as you like. You much ado about nothing. All you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter tale. Titus and Jonicus was bound to fail. So will you if a Carla get at ya. That's suicide like Annie and Cleopatra. Cymbeline, she was on a day with the Jones. Love's labor's lost a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is ill estate and I am the owner. Wiser the man that knows is a fool. Tempt not a desperate man with a jewel. I take from Peter to go and pay Paul. Sunrise by sinning by virtue fool. What have you made if you gain the whole world? But sell your own soul for the price of a pearl. The world is my oyster and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. I've told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, which to your class and speak eloquent. Though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street or road by any other name. Small just as sweet. Spit so hard but I'm smart at the bar. Come through with a Union Jack full of yarn.
Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 22 novembre 2017, il est 19h passé de 4 minutes, c'est l'heure du Canu Info.
Ce soir, l'amphicé de l'Université Lyon 2 est occupé.
Nous allons également parler de l'occupation de l'école Doineau.
Un rassemblement en mémoire de Wissam El Yamni, tué par les flics à Clermont-Ferrand, a été interdit par la préfecture.
Et Macron, Goldman Sachs compatible.
Du pognon pour les actionnaires.
Un accident nucléaire en Russie.
Un mois de décembre actif prévu par une sorte de communiqué commun des différentes ZAD et assimilés.
Un défilé des anti-IVG aura lieu ce samedi à Lyon.
On fera une petite page science 100% bio en 2050.
Et un journaliste malmené en filmant un contrôle de police.
The only revolution based on loving your enemy is the Negro Revolution.
Et du coup, on va faire un tour du côté du Nigeria où un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée à Moubi, dans le nord-est du pays. Il est arrivé à la mosquée à l'heure de la prière du matin. Le kamikaze est rentré dans la mosquée et a tué au moins 50 personnes en se faisant exploser et en faisant également de nombreux blessés. Le Nigeria subit depuis 8 ans les attaques de ce groupe qui, on le rappelle, a prêté allégeance à Daesh. Que dire, à part que cet attentat nous montre deux choses. La première, c'est que plus c'est loin et moins les victimes sont occidentales, donc moins on en parle. Et le deuxième truc, c'est qu'en termes de nombre de victimes, les musulmans sont les principales victimes de Daesh et leur petit groupe affilié tel que Boko Haram.
Voilà, après direction le Chili, ça vous a peut-être pas échappé. Il y a eu des élections dimanche pour renouveler le président et la présidente, c'était Madame Bachelet. Et c'est le retour de la droite néolibérale qui se prépare, alors avec Sébastien Piñera, mais il était censé gagner haut la main, et en fait c'était pas si énorme son score, 36%, grosse abstention. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a le Frente Amplio, qui est une nouvelle force du paysage politique chilien, qui est une espèce de coalition avec des groupes politiques de gauche et des écologistes anti-néolibéraux, parce que voilà, ça revient du côté de l'Amérique du Sud, qui ont eu près de 20%. Alors, il y a deux choses très intéressantes pour finir sur ces élections du Chili, c'est que bah, du coup, la bourse a chuté au Chili, donc ça fait plaisir. Et la deuxième, c'est quand même, juste je vous lis le titre de l'IB, la gauche radicale joue les trublions dans la présidentielle chilienne, tu vois. Donc voilà, comme d'habitude, la gauche, quand elle est de gauche, elle est radicale, et en plus, on la prend pour des joyeux lurons en les appelant les trublions.
Et une petite rêve concernant Sud Éducation 93. Donc voilà, ce syndicat a créé, vous en avez peut-être entendu parler un peu, a créé la polémique aujourd'hui, alors qu'il organisait pépère dans son coin un stage intitulé Au croisement des oppressions, où en est-on dans l'antiracisme à l'école? Classe. Stage prévu le 18 et 19 décembre dans le 93 donc. Et ce qui crée polémique précisément, ce sont deux sessions réservées aux personnes racisées pour le thème pratique de classe, outil pour déconstruire les préjugés de race, de genre et de classe, ainsi que atelier récit d'expérience, quelle vie professionnelle pour les enseignants racisés. Bougez pas, je tourne ma feuille. Donc jusque-là, rien de fou, c'est le même principe que la non-mixité mec-meuf, hein, pour résumer, ça permet de se retrouver dans un espace ou dans un moment exclusivement entre personnes partageant la même domination, oppression, etc. Bref, ça c'était sur le site Éduc 93 depuis un mois. Il aura fallu à peu près un mois quand même pour qu'un connard du Printemps des Républicains, ça vaut le coup de savoir d'où vient le buzz à la base, du Printemps des Républicains, hein, c'est le truc de la manif pour tous en gros, puis d'autres couillons du PS, le tout relayé par un site d'extrême droite, pour que la mayonnaise à buzz prenne, et on en parle de partout, ça fait les gros titres, le Fidagaro s'indigne, lui qui d'habitude on a quand même rien à foutre de ce que le syndicat Sud peut bien penser, LCI titre même un stage triant ses membres selon leurs origines. Bon, on nage en plein délire, et le ministre de l'éducation a assuré sur le gâteau, le très droitier Blanquer a aussi déposé plainte pour diffamation, car Sud Éduc a également parlé, je cite, de racisme d'État. Et ça, Blanquer, il est pas d'accord. Il dit diffamation contre l'État. Ça va être rigolo quand il va devoir le prouver.
Et une dernière petite brève. Hier, c'était le premier jour d'extrême haute pollution de l'hiver. On était à presque deux fois le taux autorisé par l'Europe. À Lyon.
J'ai pas compris.
C'était un taux de pollution sur Lyon qui était à peu près celui du deux fois le double de ce qui est autorisé, quoi. Voilà. Mais bon, on s'en fout.
Look at them flames lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high.
Et Lyon 2 est donc occupé. Cela fait maintenant une semaine que l'amphi C du bâtiment H est occupé sur le campus de Bron. Une occupation en soutien aux expulsés de la Part-Dieu, comme ils se sont fait appeler par les médias. Je sais, je suis pas sûr qu'ils aient choisi ce nom-là. Bref, et donc une occupation aussi contre la sélection à l'université. Donc le point de départ de cette occupation, c'est l'évacuation vendredi 10 novembre des jeunes migrants qui s'étaient installés sur une plateforme derrière l'hôtel Athéna, à proximité de la gare de la Part-Dieu, se disant dans leur majorité mineure, et ils attendent une prise en charge par la métropole de Lyon, qui ne vient pas. Et donc quelques étudiantes, notamment parmi ceux du collectif des étudiants étrangers de Lyon, sans papiers et solidaires, et du syndicat solidaire étudiante, ont décidé de se mobiliser. Et dans cet amphicé à l'université de Bron, les mots d'ordre et les révoltes sont multiples dans cette occupation, donc contre la sélection à l'université, pour une solution d'hébergement pérenne pour les personnes migrantes, contre la réforme du code du travail, et donc ils squatteront l'amphi tant que des solutions durables n'auront pas été proposées pour les personnes. Et l'Amphicé, c'est depuis 8 jours un lieu de vie et non plus simplement un lieu de passage. Donc des repas sont préparés le midi et le soir. Ce matin, il y a eu un bolocage partiel de l'université qui s'est bien déroulé. Il y a eu également une conférence aujourd'hui sur l'IDEX. L'IDEX qui est le nouveau projet de sélection à l'université et qui amène vraiment ce truc d'une université à deux vitesses, des filières scientifiques à retombées économiques pompant les financements et brillant à l'international, et des filières sous-financées, notamment les sciences humaines, qui sont juste là pour fournir de la chaîne à la chaîne des diplômes bon marché.
Un petit complément sur l'IDEX. L'IDEX aussi, c'est un projet de méga fusion de toutes les universités de Lyon plus Saint-Étienne pour en faire un énorme pôle universitaire qui pourrait soi-disant rivaliser, mais sur des critères complètement foireux, avec les grosses universités américaines par exemple, et qui est proposé pour un pilotage très centré sur un petit groupe restreint et qui serait composé d'au moins 50% de gens qui ne seraient pas des universitaires, donc qui pourraient être des industriels, des gens par exemple de la région, avec notre ami la tête de la région là, Wauquiez, qui pourrait siéger là-dedans. Voilà, donc c'est un projet très spécial, on va dire, qui montre que c'est la méga dérive de l'université, quoi.
Et donc cet Amphicé, c'est un lieu de partage, d'entraide entre étudiantes pour se faire, pour s'aider là pour leur cours, de passage d'infos. Une assemblée aujourd'hui a rassemblé 200 personnes et l'amphidé aujourd'hui a aussi été occupé, donc petit à petit le bâtiment H, les amphis seront occupés, ça brasse quoi. Alors tout le monde est bien évidemment invité à venir y passer, à papoter ou venir à l'AG de demain ou de dormir sur place, et si vous travaillez, vous ne pouvez pas passer, n'hésitez pas à contribuer matériellement à cette occupation par des dons de nourriture, des vêtements chauds que vous pouvez amener sur l'occupation, ou à passer à la librairie La Griffe là, dans le 7e arrondissement, et les amèneront sur l'occupation. Et pour dire, ce week-end là, puisque la préfecture ne fait rien, une tentative d'ouverture d'un squat dans le quartier de Vèze a malheureusement échoué. Et d'autres solutions ont été trouvées, mais la police est venue ce lundi après-midi déloger la vingtaine de migrants qui s'y étaient installés. Et il y a eu arrestation juste pour la journée, tout le monde a été libéré le soir même. Et chose peu commune dans cette occupation de l'université, la présidente de l'université tolère pour l'instant l'occupation. Donc Nathalie Dompnier, présidente, affirme dans un mail de lundi soir clairement ne pas demander l'évacuation de l'amphithéâtre. Je lis des extraits, parce que c'est rare quand même dans les occupations que les chefs soutiennent. Donc l'absence de prise en charge de ces migrantes par les institutions et organisations compétente nous amène à devoir composer avec une situation qui n'entre en rien dans le cadre de nos missions. Nos locaux, pas plus que l'activité et l'organisation des services de l'université, ne permettent un hébergement dans de bonnes conditions. Toutefois, procéder à une réquisition de la force publique en l'absence de solutions alternatives pour l'accueil de ces personnes ne nous semble pas souhaitable, dans la mesure où l'occupation des locaux reste compatible avec les missions premières de l'établissement. Et donc, elle lance un appel à solidarité. Cette situation appelle réflexion et engagement, à la fois de l'institution et de l'ensemble de celles et ceux qui en font partie. Nous en appelons à vos solutions, à votre soutien individuel et collectif pour répondre de manière solidaire à cette situation et pour faire en sorte qu'elle se passe dans les meilleures conditions pour toutes. Et donc après, la présidente a expliqué que les associations, les collectivités, la préfecture ont été contactées pour trouver des solutions durables d'hébergement. Problème, chacun se renvoie la balle, donc comme souvent dans ces situations, selon la présidente. Donc, et partout les réponses sont similaires, les dispositifs d'accueil sont déjà saturés, et la préfecture aurait même suggéré à Nathalie Dompnier, écoutez bien, c'est hallucinant, de faire réaliser le travail par les assistantes sociales de l'université.
Voilà, ils ont peur de rien, quoi.
Ouais, c'est pas leur mission, mais bon, elles peuvent s'occuper de trouver un hébergement pour les migrants, quoi. Tant qu'à faire. Bon, bref. Et hier, mardi, un point presse s'est tenu sur le campus d'Aubron, au cours duquel la présidente a réaffirmé sa position. Donc rendez-vous demain, jeudi 23 novembre, pour l'Assemblée Générale, il me semble, à 12h30. porte, si je ne me trompe pas. Et n'hésitez pas aussi à passer ce soir, il y a du monde, ça papote toute la soirée.
Eh bien, d'une occupation à l'autre, puisque, et en fait, on parle encore d'une occupation qui vise à mettre des gens à l'abri des froids hivernaux qu'il y a par les temps qui courent. Et donc, un collectif citoyen de parents et d'habitants occupe l'école Douaneau, qui est là juste à côté de la radio, donc à Lyon 1er arrondissement, qui est une école primaire et maternelle. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des parents et des habitants se sont réunis lundi pour parler de la situation des gamins qui sont à l'école et qui n'ont pas de toit et qui dorment réellement dehors. Donc là, on parle de... Non, je suis en train de chercher le nombre de familles et d'enfants, mais c'est une dizaine de familles et 16 enfants de l'école qui dorment dehors. Qui dormaient dehors jusqu'à hier, puisque les parents, une fois qu'ils se sont réunis lundi, ont décidé de commencer une occupation dès le mardi. Et puis ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé, alors je ne sais pas où ils l'ont annoncé, mais en tout cas, ils l'ont annoncé entre autres sur Rebellion. Et ils ont donné rendez-vous à 17h45. Devant l'école, pour rentrer dans l'école et l'occuper. Bon, là, il se trouve que quand ils sont arrivés devant l'école, il y avait des policiers municipaux qui bloquaient les accès à l'école depuis déjà 15h45, eux, ils étaient quand même bien en avance. Bon, les familles ont quand même réussi à rentrer dans l'école. Il faut dire qu'il y a la sortie des classes. Hein. 17h45, c'est la fin de l'étude. Donc, il y a des gamins qui rentrent, qui sortent, des parents qui vont les chercher. C'est un peu compliqué d'empêcher les gens de rentrer. Donc, ils ont réussi à rentrer dans l'école. Et puis après, ils ont reçu toute une série de visites. Ils ont eu d'abord l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription qui est venu constater l'implication des enseignants dans l'occupation, donc une sorte de démarche plus ou moins menaçante en tout cas.
Ah oui.
Ensuite, la direction de l'éducation de la ville de Lyon. Alors ils sont venus pour dire, non mais en fait pour une des familles on a un hébergement à Tassin, donc assez loin pour que ça soit compliqué pour les parents du quartier de rester en lien. Et puis quand même le collectif de parents a demandé s'ils savaient combien de temps cette solution allait durer. Et là, bah non, en fait ils savaient pas. Donc potentiellement ils auraient été là-bas pour 3 jours, une semaine, en tout cas le temps que cette histoire d'occupation se tasse, et après, pff, dehors. Ce qui est une bonne tactique globalement de la préfecture, quand il y a des trucs de mouvement, de trouver des solutions pour des gens, de leur dire bah vous prenez cette solution ou alors de toute façon vous n'aurez plus jamais droit à rien. Et puis la solution peut durer 3 jours, une semaine, 2 semaines, et après les gens se retrouvent dehors. De toute façon ils sont séparés, entre-temps ils sont aussi séparés de leur soutien. Et voilà.
Tu parles de la préfecture, mais c'est aussi la mairie de Lyon du coup quand même.
Oui, et là en l'occurrence c'est ça, c'est la direction de l'éducation de la ville de Lyon. Mais bon, globalement la préfecture et la ville de Lyon ont quand même l'air de bosser pas mal main dans la main pour ce qui est de démonter les mouvements en faveur d'héberger des gens qui n'ont pas d'hébergement. Ils ont reçu ensuite la visite de 2 officiers de police nationale qui sont entrés dans l'école pour prendre acte de l'occupation et compter les personnes présentes. Et puis enfin, la direction de l'éducation est revenue, donc ça c'est les mêmes que ceux qui avaient promis l'hébergement, pour s'assurer que l'occupation allait se faire dans de bonnes conditions de sécurité, ce à quoi le collectif s'est engagé. Le collectif nous dit qu'il poursuivra l'occupation tant que des solutions pérennes d'hébergement, c'est-à-dire pas juste 3 nuits ou une semaine, mais des solutions pérennes, ne seront pas proposées aux familles. Il s'organisera pour le rester le temps qu'il faut. Le collectif souhaiterait que l'énergie déployée par les institutions pour empêcher l'occupation de l'école, donc voilà, les flics, les machins, les trucs, soit plutôt déployée dans la recherche de solutions pour le relogement des écoliers et des familles qui dorment qui dormaient en tout cas jusque-là dans la rue. Alors, il faut savoir que cette semaine, à l'occasion de lundi, c'était la Journée internationale des droits de l'enfant. Et du coup, à cette occasion, il y a eu toute une série d'événements lundi, mardi. Et puis aujourd'hui, si vous avez envie, il est encore temps d'y aller. Depuis 18h, il y a un rassemblement devant la préfecture, donc Quai aux Gagneurs, avec soupe chaude, fanfare, blabla, etc. etc. Ça a commencé à 18h, ça va durer encore une partie de la soirée. Et enfin, le collectif qui organise ce rassemblement, c'est le collectif Jamais sans toi, donc qui qui globalement coordonne des gens qui font des actions comme celles dont je viens de parler dans les écoles. Et ce collectif Jamais Sans Toi dénombre sur la ville de Lyon, sur l'agglomération lyonnaise actuellement, 243 enfants qui dorment dehors, qui n'ont pas d'hébergement, pas de toit.
Voilà, par exemple, ce que tu as précisé sur Lyon 1, ça se passe aussi du côté de Vaux-en-Velin. Et
il y a vraiment un certain nombre d'écoles sur l'agglomération qui font ça.
Et notamment aussi à Villeurbanne. Je prendrai l'exemple de l'école de Jean Zé où il y a 4 familles qui étaient à la rue et la mairie s'en est un petit peu mêlée. Ils ont trouvé un arrangement avec la paroisse locale. Mais c'est la mairie qui paiera les fluides et compagnie pour les reloger. Quoi. Voilà, donc on a l'impression que ça se goupille peut-être un petit peu mieux avec certaines autres municipalités. Quoi.
Ce qui prouve que ça sert à quelque chose, et que ça marche. Quoi, du coup. I thought it was hip when process first arrived. It's a new day now, time has changed, and I wanna be identified. Everywhere I go, I see brothers getting in the natural band. Alors, c'est pas une grande nouvelle que je vais vous dire là, mais en tout cas, sachez que Macron, hein, le président est de droite et de gauche, hein, comme il se dit, a été adoubé par Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs, la méga banque d'affaires internationale qui s'est fait plein de pognon durant la crise de 2008.
Il a été adoubé ?
Par exemple. Oui, tu verras tout à l'heure les propos du président. C'est, on pourrait dire, un peu l'ENA du capitalisme, hein, Goldman Sachs. Par exemple, Romano Prodi, hein, est passé par chez eux avant de diriger le conseil en Italie. Le président du conseil, c'est un peu comme président de la République en France. De 2011 à 2013, et a mis en place tout un tas de mesures de rigueur juste après la crise. Mario Draghi a aussi bossé chez eux, de 2002 à 2005. Puis a fini par être nommé président de la Banque Centrale Européenne en novembre 2011. Banque Centrale Européenne qui a mis en place avec le FMI tout le plan de rigueur en Europe et principalement sur la Grèce pendant la crise. Bref, je pense qu'en termes de pouvoir et d'influence, on pourrait dire que c'est le capitalisme à l'état pur. Et si le capitalisme devenait une religion, les bureaux de Goldman Sachs deviendront leur lieu de prière, hein, en gros. Et donc, en bon banquier d'affaires, il regarde de très près les politiques des pays. Surtout quand ce pays est dirigé par un confrère, hein, donc Emmanuel Macron. Et donc ils ont jeté un œil à son programme et là le PDG a dit « Allez, banco », il a déclaré, je cite, écoutez bien, « La France vit un moment décisif, le pays a un nouveau président, merci, qui s'est engagé sur un programme de réforme qui certes ne va pas faire plaisir à tout le monde, je vous vois dans le studio, mais qui repose sur des bases rationnelles. Ça vous n'y avez pas pensé. Hein. Assouplir le marché du travail, baisser les impôts, rendre le pays plus compétitif et... » Quand même.
C'est original, hein, non ?
C'est original. La France a toujours été une énigme pour moi.
Et ouais.
Ce pays n'a pas une économie à la hauteur de son potentiel, parce que l'État pèse trop lourd dans le pays. Si Emmanuel Macron est assez fort pour mener ses réformes à terme, la France deviendra un pays encore plus puissant.
T'es sûr que c'est pas un robot là qui a parlé, parce que c'est quand même très stéréotypé ce qu'il nous a dit là, non ?
Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Ça marche bien. En tout cas, on peut dire merci à ce PDG de nous confirmer ce qu'on pensait déjà, même si voilà. Macron, on pense, apprécie, mais on imagine quand même qu'il aurait peut-être préféré, hein, que ça ne sorte pas tout de suite, que ça sorte voire pas du tout, hein, que cet adoubement se fasse en privé.
Il y a des soutiens qui sont parfois un petit peu encombrants.
C'est ça, hein, lui. Voilà, lui qui rame, hein, par exemple, il est en pleine période où il essaye de montrer, là, de donner des gages à la gauche. Donc il rame déjà pas mal. Pas sûr que ça le fasse ramer moi, quand même.
Cette musique entraînante, ça donne des ailes pour être heureux de la générosité de multinationales envers leurs actionnaires. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours qui dit que les dividendes versés... Alors attention, hein, c'est juste au troisième trimestre, parce qu'on va parler de chiffres. Et vous suivez là, parce que c'est des chiffres. Oh. Au troisième trimestre, les dividendes versés aux actionnaires dans le monde se sont augmentés de 15%. Et ça fait 350 milliards de dollars. 350 milliards de dollars qui sont donnés juste aux actionnaires, juste comme ça.
Non, alors,
je vais vous donner des chiffres en rapport. Donc ça ne doit pas concerner grand monde, tous ces dividendes. 330 milliards de dollars, c'est ce dont je vous parle. 100 millions d'euros. Ça, ça concerne 3 millions de foyers. Et ça, c'est le rabais sur les appels là, de 5 euros. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc, quand, le RSA, c'est 10 milliards d'euros aussi. Ça concerne 2 millions de personnes. Voilà. Et ben, juste sur le troisième trimestre, c'est 330 milliards de dollars pour probablement pas grand monde. Alors, on va essayer de donner qui est-ce qui fait ça. Ceux qui décrochent le pompon, c'est China Mobile. En fait, ça fait 20 ans qu'ils sont cotés en bourse et du coup, ils se sont dit, bah tiens, on va renverser, on va faire un dividende exceptionnel. Et ils ont versé 9 milliards de dollars à leurs actionnaires. Enfin, je veux dire, c'est pas que pour parler de chiffres, c'est juste pour dire que l'argent, il va bien quelque part où il devrait pas aller quand même. Hein. Le plus gros payeur de dividendes, c'est l'Amérique du Nord. Alors, il y a 4 dollars sur 10 qui sont payés du côté des dividendes nord-américains, États-Unis et Canada. D'accord, hein, c'est eux qui font ça. Et puis les entreprises qui sont les plus généreuses, du coup, sur le continent américain, il doit peut-être y avoir Goldman Sachs, hein, mais il y a ExxonMobil, c'est vraiment une des entreprises les plus crades, puisqu'elle fait quand même des recherches à l'exploitation du pétrole un peu partout. Apple, hein, si vous êtes super motivé avec vos terminaux avec la pomme derrière, ben voilà, c'est ça aussi. AT&T et Microsoft. Du côté de l'Europe, c'est les Royaumes-Unis qui sont là. Il y a notamment des entreprises minières qui s'en sortent bien, qui ont donné pas mal de brosouf aux actionnaires, avec une augmentation de 20% de ce qui est donné. C'est-à-dire que, je veux dire, voilà, ils donnent déjà beaucoup, puis ça augmente. Voilà. Et en France, c'est assez réduit, puisque c'est 2 milliards de dividendes. 2 milliards de dividendes, donc c'est 20 fois ce qui est demandé aux 2,7 millions de foyers qui touchent l'APL. Voilà. Donc ça c'est donné à des dividendes, et en particulier il y a Publicis, donc la boîte de pub qui en aurait donné pas mal cette année, voilà. Et puis alors l'article du Monde est assez complaisant, puisque le titre c'est les multinationales les plus généreuses, et ça se termine par la France grâce à voilà, la société Publicis blablabla, ce qui a permis aux dividendes français de se maintenir dans le groupe de tête en Europe. Voilà, c'est un peu le groupe de la honte.
Ah, nous voilà rassurés.
Donc du fric, il y en a, quoi. Et juste pour aller un peu dans le même sens, si vous avez plein d'argent, c'était juste pour vous signaler, c'est Acrimed hein, qui le dit, le numéro du Nouvel Observateur du 9 novembre 2017, qui est probablement encore disponible, qui est titré « Épargne les bons choix pour 2018 ». Voilà, donc en fait, objectif, défiscalisation, voilà, moins de 2 mois pour alléger vos impôts. Donc il y a tout un pamphlet pour se réorganiser, pour réorganiser son patrimoine immobilier, et puis avec 17 pages pour les meilleurs investissements pour soutenir l'entreprise. Voilà, et puis alors le truc qui est assez drôle, et c'est Acrimed qui nous en parle, c'est qu'il y a 17 pages sur ce dossier brosouf, et il y a 9 pages et demie qui sont des publicités, et les publicités, il se trouve qu'elles sont en lien avec les suggestions qu'ils font, c'est-à-dire que voilà, du coup, il y a des publicités pour la caisse d'épargne, pour la MAF, etc., etc. Donc définitivement, voilà, le Nouvel Obs, c'est du bon côté de la barrière.
Tu veux dire, c'est pas comme Le Monde qui fait des publicités pour des mondes de luxe quand il traite d'un article, par exemple, sur la pauvreté.
Après, c'est peut-être le moment de rappeler que si vraiment vous avez de l'argent et que vous souhaitez soutenir l'entreprise, vous pouvez aussi soutenir CQFD, le journal CQFD, qui est complètement dans le rouge au niveau financier, qui est un journal hyper classe, un journal marseillais hyper intéressant. Et bon, vous trouverez facilement CQFD. Voilà. Si vraiment vous avez du pognon, donnez-leur plutôt à eux.
Voilà, et on peut aussi donner du pognon à Acrimed, donc Action Critique Média, qui a sorti son Média Critique numéro 25, octobre-décembre 2017. Ça coûte 5,50€ et ça se trouve un peu quelque part par là. Voilà, il y a notamment un article sur la meute des éditocrates qui est vraiment très intéressant, quoi.
Alors, peut-être que vous vous souvenez, chers auditeurs, chères auditrices, de Wissam El Yamni. Wissam El Yamni, c'est ce gars qui a été interpellé par les policiers dans la nuit de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012. Et puis qui, son interpellation s'est passée d'une manière un petit peu mouvementée. Il a terminé l'interpellation dans le coma et 9 jours après, il est mort. Alors, la famille, les proches sont depuis dans une sorte de bataille judiciaire, longue et compliquée, pour essayer de déterminer les responsabilités précises des flics qui l'ont interpellé dans sa mort. Bon, les flics ont commencé par dire que c'était un coma éthylique, que c'était les stupéfiants, que c'était etc., etc. Toutes les autopsies ont plutôt montré qu'il avait été étranglé un petit peu fort et plié un petit peu fort aussi. Et que c'est sans doute plutôt pour ça qu'il est mort. Bon, en tout cas, voilà, depuis ça, la famille rame pour essayer de faire reconnaître quelque chose judiciairement. Et là, la famille avait décidé de faire une sorte de cérémonie hommage ce samedi 18 novembre. Et avait, avec l'accord de la préfecture, décidé de planter un arbre dans un jardin du centre-ville de Clermont-Ferrand. Tout ça se passe à Clermont-Ferrand. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les syndicats de flics ont, eux, posé un truc ont déposé à la préfecture une demande de contre-manifestation. Et du coup, la préfecture a décidé que, pour des raisons d'ordre public, ils allaient prendre un arrêté d'interdiction pour la cérémonie du souvenir avec l'arbre. Voilà, bon, a priori, les soutiens étaient en plus, alors pour le coup, dans un moment relativement d'apaisement. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'était vraiment une sorte de cérémonie pour se rappeler entre eux. C'était pas un truc très très combatif.
Ouais, si tu plantes un arbre.
Dans le communiqué qu'ils ont fait suite à cette interdiction, ils nous disent presque 6 ans après la mort de Wissam, la plantation d'un arbre se voulait une pause dans la quête de vérité et le symbole de notre tentative d'apaisement. Cet événement avait pour but de lui redonner son identité. De fils, de frère, de mari, d'ami. Voilà, mais les syndicats de flics ont réussi à faire annuler ce truc-là.
Du ruthénium 106 détecté du côté de la France. Et oui, la Russie a reconnu, il y a 2 jours, qu'une concentration extrêmement élevée de substances radioactives, donc du ruthénium 106, avait été donc effectivement détecté à la fin du mois de septembre dans plusieurs régions du pays. Et elle a confirmé, donc en fait voilà, les Français ont détecté ça et puis ils ont fait des simulations informatiques, ils ont essayé de remonter avec les vents et tout le bazar, essayer de voir d'où venait le nuage, et ils ont trouvé que en fait la zone de rejet la plus plausible se situait entre la Volga et l'Oural. Et donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français a dit voilà, il y a un gros problème là, il y a des traces radioactives qui viennent à gogo de la Russie. Et la Russie a dit mais non, c'est pas nous. c'est pas nous. Alors, c'était pas nous, sauf que du coup, le lundi 20 novembre, c'est nous. La Russie a reconnu que c'était bien eux, sauf qu'on sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors, en fait, il y a que le ruthénium 106 qui est sorti, donc du coup, ça peut pas être un accident nucléaire de centrale nucléaire, mais bon, voilà. On imagine bien un petit peu la culture du secret autour de ça. Donc, c'est probablement pendant le retraitement ou quelque chose comme ça. Alors, en France, il est bien précisé, mais bon. Voilà, que les niveaux de concentration dans l'air qui ont été relevés en Europe sont a fortiori sans conséquence pour la santé humaine et pour l'environnement. voilà. Mais il précise bien quand même que pour les gens qui étaient à côté, donc entre la Volga et l'Oural, il aurait carrément fallu faire des mesures de protection de population et que de fait, ça n'a pas été fait puisque personne en Russie a été évacué de quoi que ce soit. Donc il y a la branche russe de la branche environnement de Greenpeace qui a demandé l'ouverture d'une enquête. On imagine que ça ne va pas aller très loin. Et pour continuer sur cette petite page nucléaire, je vous suggère la consultation d'un article du Monde Diplo qui s'appelle « Mettre sa mort, un Tchernobyl en puissance ». C'est un ensemble de photos qui sont prises par Sébastien Castelier de cette centrale nucléaire, probablement l'une des centrales nucléaires les plus dangereuses du monde, qui est à 30 km de Erevan, donc en Arménie. Voilà. Et c'est une centrale qui a été construite à l'époque de l'Union soviétique. Et bah, c'est con. Ils l'ont construit sur une faille sismique. Donc il y a eu un tremblement de terre en 88 du côté donc, de l'Arménie. Et heureusement, ça s'est passé à 70 km de là. Mais voilà, ils le savent. Il y a même eu un rapport qui date de 1992 qui dit, qui affirme bien qu'il y a une faille sismique présentant un grand danger qui se situe à... Alors, à combien de mètres de la centrale ? Allez, allez-y.
50.
Non, quand même, enfin c'est 500 mètres. Ils sont vraiment assis dessus. Alors justement, les photos, elles montrent qu'il y a des, j'ouvre les guillemets, travaux visibles de renforcement de la centrale en cas de tremblement de terre. Donc il y a des croisillons. Il y a des photos de bout de la centrale nucléaire où ils ont mis des croisillons en tôle parce qu'ils sont censés éponger les ondes. Voilà. Il y a des photos aussi. Il y a 64 amortisseurs hydrauliques de technologie japonaise qui ont été installés. Alors le gars, il dit, ben voilà. En fait, du coup, s'il y a un séisme, c'est eux qui vont prendre la vague, et donc ça va permettre de ne pas être vers la grosse catastrophe.
Est-ce qu'ils ont du gaffeur aussi ?
Ouais, c'est un peu ça. Donc vraiment, c'est de nouveau, hein, sur le site du Monde Diplo. Juste quand même pour rester dans le glauque, hein, cette centrale nucléaire, elle est à 1 km d'une petite ville où il y a près de 2000 salariés qui habitent là avec leur famille dans des trucs super vétustes. Alors, donc je précise, les centrales nucléaires, ça produit de l'électricité qui peut potentiellement permettre de faire de l'éclairage, mais cette ville n'a pas l'éclairage public. Voilà. Donc ils vivent dans le dénuement total. Et puis, je le répète, cette centrale, elle est à 30 bornes d'Erevan. Voilà. Alors pourquoi ils ne la ferment pas ? C'est que 40% de l'électricité produite dans cette centrale... Non, pardon. Bon, bref, 40% de l'électricité utile pour donc, l'Arménie provient de cette centrale. Et puis ils avaient donc augmenté les tarifs d'électricité en 2015 et il y avait eu des révoltes monstrueuses du côté donc, de l'Arménie. Donc il y a comme un problème un peu technique. N'empêche que c'est la sécurité publique et puis de la pollution en perspective. Quoi. Voilà, croise les doigts.
Mais l'avantage du nucléaire, c'est que c'est une énergie propre, puisque c'est une énergie non carbonée, et donc qui ne nuit pas, qui ne produit pas de réchauffement climatique. Alors bien sûr, ça peut produire plutôt des destructions massives d'endroits, de zones géographiques.
De la terre entière.
En tout cas, c'est un des arguments qui font qu'au moment où les États sont censés diminuer leur production de gaz à effet de serre, le nucléaire revient à plein de moments comme une sorte de solution. Préparons-leur un hiver ardent. C'est le titre de la déclaration commune des territoires en lutte face au sommet du climat du 12 décembre à Paris. De Bure à Roibon, en passant par Notre-Dame-des-Landes, des collines aveyronnaises au plateau de Mille Vaches, en passant par la ceinture maraîchère dijonnaise ou les côtes du Finistère, nous affirmons notre détermination et proposons un calendrier commun. Et donc voilà, c'est toutes les ZAD, machin, campement de ci, occupation de ça, qui ont pondu un petit texte ensemble, où ils expliquent en particulier que le mois de décembre qui approche risque fort de recouvrir un sens particulier pour nous, à au moins deux titres. Et donc le premier, c'est plus un truc symbolique qu'une histoire d'anniversaire, et c'est les deux ans de ce qu'ils appellent la farce tragique que fut la COP21. En précisant, nul doute que notre banquier national, donc Emmanuel Macron, se fera une joie de se revendiquer héritier de la COP sur le climat et de se poser en champion incontesté de la croissance verte. Tout ça à peine un mois après avoir soutenu publiquement un projet de mine d'or en Guyane, un truc hyper destructeur écologiquement.
Ou le Lyon-Turin aussi.
Voilà, ou avoir pris position en faveur de l'enfouissement des déchets radioactifs. Par ailleurs, le mois de décembre 2017, ça pourrait bien être un mois charnière dans la lutte contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, puisque c'est à ce moment-là que la médiation qui a été lancée par le gouvernement Macron devrait se terminer, et donc que le gouvernement devrait statuer sur le sort qui va être réservé à Notre-Dame-des-Landes. Et là, les signataires du texte pensent que... Alors, eux, ils ont pas vraiment de pronostic en termes de qu'est-ce qui sortira de cette médiation, mais ils disent, bon alors, soit soit le gouvernement décide que l'aéroport doit se faire, et donc là, on est reparti pour la guerre. Il rappelle cette manifestation qui s'est déroulée il y a 2 ans, où des milliers, peut-être des dizaines de milliers, je me souviens plus, de gens sont venus planter un bâton à Notre-Dame-des-Landes en promettant de revenir le chercher, et donc un bâton, ça peut servir à se taper, de revenir le chercher en cas de tentative d'expulsion. Mais c'est aussi possible que le gouvernement laisse tomber sur le coup de Notre-Dame-des-Landes et puis que ça soit un peu, vous voyez, on est gentil. Par contre, on va plutôt taper sur la forêt de Roibon, sur le bois Le Jus, qui est cet endroit à Bure où il y a un projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Et donc, les signataires du texte craignent que si le gouvernement abandonne le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ça soit pour mieux faire passer la pilule d'autres expulsions. Et donc ça serait les signataires du texte disent que c'est le moment d'une convergence entre un écoquartier à Dijon, un aéroport à les gens qui luttent contre un écoquartier à Dijon, un aéroport à Notre-Dame, une poubelle nucléaire à Bure, un transformateur électrique à Saint-Victor, une centrale biomasse à Gardanne, des forages miniers en pleine forêt amazonienne, une autoroute à Strasbourg, une autre entre Saint-Étienne et Lyon, une usine à gaz à Landivisiau, des mines en centre-Bretagne, de l'extraction de sable en baie de Lannion, etc., etc. Nous avons en commun, disent-ils, d'être aux prises avec un certain type de discours écologique institutionnel, tel que celui qui a été porté par la COP21, celui-là même qui maquille l'accumulation énergétique en transition, qui promeut le nucléaire comme une énergie décarbonée, ce dont je parlais en introduction, donc propre, qui verdit grossièrement aéroports et center parks pour les rendre acceptables, qui vend sous les termes de smart et de green une dépossession totale de nos vies par les métropoles devenues intelligentes et connectées. Alors voilà, alors du coup il prépare toute une série d'événements pendant le mois de décembre. Donc 2 décembre, manifestation à Sainte-Afrique contre le transformateur électrique, blablabla. 6 au 12 décembre pour la Saint-Nicolas, appel de Bure à une semaine d'action décentralisée. 9 décembre, manifestation sur le plateau 2000 vaches contre l'usine à Polet de Carbon. 16 décembre, fête de la forêt de Roibon, etc., etc. Vous trouverez ça relativement facilement sur Internet. Donc voilà, un hiver ardent.
T'as le lien
Non.
Bon, voilà, démerdez-vous.
Arceau.
Rebellion. Voilà, un petit peu dans la même série où on change pas sans changer. Voilà, ça veut rien dire. Voilà, mais bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si, un peu comme Macron, on imagine qu'il faut faire de la croissance verte, et ben c'est qu'on n'a pas compris qu'en fait, il faut faire autre chose si on veut lutter contre ce qui se passe au niveau de l'environnement. Voilà, donc c'est une étude qu'on peut qualifier d'ultra sérieuse qui est sortie dans un journal qui s'appelle Nature Communication. Donc c'est très très pointu. Et c'est une étude qui a fait de nombreuses simulations pour voir comment on pourrait passer l'intégralité des cultures mondiales, donc sur le monde entier, pour nourrir tout le monde,
à du biologique. Donc 100% d'agriculture biologique en 2050 pour nourrir plus de 9 milliards d'êtres humains. Alors en fait, tout le monde, enfin il y a plein de gens qui disent voilà, c'est bien gentil l'agriculture biologique, mais voilà, en fait, on pourra jamais nourrir tout le monde, faut arrêter avec vos idées de hippies, etc., etc. Bon, alors là, c'est quand même des scientifiques qui ont fait une étude. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent bah oui, effectivement, si en 2050 on passe tout en agriculture biologique et qu'on change rien, et bien effectivement il faudra multiplier par deux la quantité de terre qu'il faut utiliser, ça va avoir des problèmes sur l'érosion, sur la déforestation, et puis on va peut-être pas trop y arriver, etc., etc. Mais ils disent, mais attendez, si on veut changer, autant changer correctement. Et il y a deux choses à changer. Il faut attaquer le niveau de gaspillage alimentaire. Donc ils intègrent le gaspillage alimentaire, donc ils ont une grande base de données de tout le gaspillage alimentaire qui est fait dans le monde, et donc ils disent, ben voilà, si on le passait à zéro. Ok. Et puis le truc qu'ils disent, il y a un autre truc très important, c'est qu'il faut arrêter de faire en sorte que tout ce qui est produit au niveau végétal soit donné aux animaux qui sont mangés par les humains. Passons directement à une consommation bien moindre d'animaux et passons à une prédominance du légume dans le régime alimentaire humain. Donc tu fais que du bio pour toute la planète entière, on va pas trop y arriver. Tu fais du bio, tu réduis, donc c'est eux qui le montrent, hein, y a des graphiques incroyables là-dessus, tu fais du bio, tu réduis très fortement le gaspillage alimentaire, je veux dire, ça devrait être possible, tu réduis fortement la quantité de végétaux qui sont donnés aux animaux, donc tu réduis l'utilisation de l'animal comme nourriture pour l'homme, et bien tu arrives au même niveau d'utilisation de terre, au même niveau de déforestation qu'actuellement, évidemment, il n'y a pas de pesticides, voilà. Il n'y a pas de nitrate, il n'y a pas de plein de trucs. Et puis, il y a une autre étude qui est parue à peu près dans le même journal, qui s'appelle Nature, qui montre que aussi, pour l'emploi, c'est aussi bon pour l'emploi, au sens où c'est très agrégatif. L'agriculture biologique, ça va avoir tendance à intégrer énormément de monde dans cette production agricole. Voilà. Donc, je veux dire, ils ont fait des calculs forts, et donc c'est un message fort qui dit que c'est un peu comme quand on parle de convergence des luttes, bah là c'est un peu ça. On peut très bien passer en agriculture biologique si on change de façon de penser un petit peu sur la façon de s'alimenter. Stop au gaspillage, et donc stop à la nourriture animale.
Les FAF anti-avortement vont être à Lyon ce dimanche. Ah tiens, j'avais dit samedi, mais c'est ce dimanche, le 26 novembre. La préfecture leur a donné le droit de défiler à partir de 14h. Alors bien sûr, où est-ce qu'ils font leur manifestation ? Eh ben, ils partent du Vieux Lyon, donc de la place Saint-Jean. Ce qui n'est pas très étonnant, mais ce qui est peut-être d'autant moins étonnant que ça ne serait pas impossible que d'une manière générale, les pouvoirs publics aient vraiment une sorte de petite idée de la géopolitique de la ville. Et donc les fachos, c'est de l'autre côté de la Saône. Voilà, c'est leur quartier, c'est normal, ils y font ce qu'ils veulent. Alors, bien sûr, on parle beaucoup en ce moment des prières de rue, c'est vraiment scandaleux, les musulmans qui font des prières de rue, tout ça. Bon, bah, je pense que si vous voulez voir une prière de rue catholique, allez donc vous balader du côté de Saint-Jean ce dimanche après-midi.
Et pour faire juste un petit rebondissement sur l'avortement, on a parlé des élections chiliennes. Alors, celui qui est arrivé numéro 4 avec 8% des voix, c'est José Antonio Cast. Alors lui, il est complètement anti-avortement, il adore Pinochet. Il dit qu'en fait, voilà, c'était super. Ouais, et ouais. Il est contre l'avortement et du coup, il a 9 enfants. Voilà. Bref.
Putain, des fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra dans le studio parce qu'il y a une joute de doigts. Dans. Vas-y, c'est à toi, vas-y.
Alors on va pas énormément s'attarder parce que c'est une histoire malgré tout relativement banale, sauf que là elle est arrivée à un journaliste détenteur d'une carte de presse, ce qui fait qu'on peut en parler un petit peu plus, mais et puis voilà, c'est un type d'histoire que nous on trouve relativement souvent quand on prépare les infos, et la plupart du temps on se dit ah encore une fois et on laisse tomber. Bon, cette fois-ci, je sais pas, on avait le temps, celle-là m'inspirait. En tout cas, c'est une histoire d'une personne qui se fait violemment agresser par des agents de la RATP pendant qu'elle est en train de filmer un contrôle. Sauf que là, il se trouve que ce gars qui s'appelle Raphaël Gaucho est détenteur d'une carte de presse et qu'il a l'air d'être quand même assez décidé à pas laisser passer le bousin. Donc il raconte son histoire, on peut trouver ça sur Street Press qui est un des sites sur lesquels auxquels il collabore, puisque lui il est journaliste freelance, donc il vend des articles à droite à gauche, entre autres à Street Press qui est par ailleurs un bon site d'info. Alors voilà, il nous explique que donc c'était vendredi 17 novembre, c'était 22h, il va à une soirée avec un pote à lui. Et il est dans le métro, des contrôleurs rentrent, une dizaine de contrôleurs, titre de transport. Bon, lui, il est en règle, son pote n'a pas de ticket, donc il doit payer une amende, 50 euros sur place ou alors le double plus tard, il choisit de payer. Jusque-là, ça passe. Et à un moment, deux ou trois agents encerclent un type qui est un peu plus loin sur le côté. En fait, assez rapidement, notre journaliste comprend que le type qui se fait encercler n'a pas de papier. Il n'y comprend rien à ce qu'on lui dit, il a hyper peur. Les agents sont super agressifs. Et du coup, lui, il se dit, ok, je sors mon téléphone, je filme. Si ça dérape, il y aura toujours un truc à montrer. Par ailleurs, Street Press, un journaliste de Street Press, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est au départ assez militant. Du coup, tout son témoignage est bâti de manière où c'est un peu clair que la solidarité avec le bonhomme qui n'a pas de papier. Donc, il sort son téléphone et puis il sort aussi directement, il la tient à la main, sa carte de presse. Immédiatement, une des agentes qui est en civil s'approche de lui, le pousse, lui met des coups, le pince et lui tape dans le bas du ventre pour le faire reculer, pour l'éloigner de la scène. Lui, il sort sa carte de presse, j'ai le droit de filmer, vous pouvez pas m'empêcher. Non monsieur, vous n'avez pas le droit, rétorque-t-elle, éteignez votre téléphone. Bon, lui, alors pour le coup, vraiment, lui, il se laisse pas faire. Il est hors de question qu'il éteigne son téléphone, il continue à argumenter. Il essaye de filmer les coups qu'elle est en train de lui mettre. Et puis, finalement, elle lui tape la main et son téléphone tombe par terre. Il le ramasse. Pourquoi vous avez fait ça? Je vous avais prévenu, monsieur. Je vous ai dit d'arrêter de filmer, etc., etc. Bon, une sorte de petit échange sur la liberté de la presse, mais en tout cas des trucs où a priori les contrôleurs vont pas être très fiers, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive et qu'il chope et qu'il l'étrangle par derrière. Il l'étrangle pendant un moment quand même. Alors lui, il dit il est costaud, j'ai mal, je peux pas respirer, il essaye de me mettre au sol, je ne me débats pas, je me dis que ça ne peut qu'envenimer la situation, je me dis que si le mec est assez fou pour m'étrangler, mieux vaut ne pas le chercher. Il me donne des coups de pied et des coups de genou dans la jambe. Et puis, finalement, les collègues du contrôleur l'empêchent de continuer. Lui, il a plus le téléphone, il sait pas où il est passé. Et puis, les contrôleurs lui rendent le téléphone à un moment en lui disant « On a tout supprimé, vous n'avez aucune preuve. » Bon, tout le long, les contrôleurs n'arrêtent pas aussi de dire qu'ils vont appeler les flics. Lui, arrête pas de dire « Appelez les flics, moi j'ai des choses à leur dire là. » Et en fait, pendant toute la scène, les contrôleurs finissent par ne jamais appeler les flics. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont complètement dans l'illégalité et ils le savent. Et puis ils finissent par lui tendre l'espèce de petite machine qu'ils ont pour donner des amendes. Vous voyez une machine où on peut signer avec un stylo, un stylo contact machin là. En tout cas, les gens qui ont déjà eu des amendes vont voir de quoi il s'agit. En lui disant signez ici. Et en fait, les flics viennent de lui mettre une amende de 110 euros pour trouble de la tranquillité.
Les flics à la RATP.
C'est ça, pas les flics, mais les contrôleurs de la RATP, tout à fait.
Même si la différence s'amenuise d'année en année. Ouais.
C'est ça. Alors lui, bien sûr, refuse de filmer.
De signer.
Merci, décidément, l'heure passe, c'est la fin des infos. La police, donc, ne vient jamais. Le lendemain, il décide d'aller faire constater ses blessures. Il a 3 jours d'ITT. Il va déposer plainte. Il fournit aux flics la vidéo de la première partie du contrôle. Oui, parce que, enfin, je ne suis pas entré dans le détail, mais en fait, la scène se passe avec 2 téléphones et il n'y en a qu'un que les contrôleurs ont effacé. Tous les contrôleurs sont identifiables et lui, en tout cas, lui, il décide qu'il y aura des suites et qu'il fera tout pour qu'il y ait des suites, qu'il ne lâchera pas l'affaire. Je pense on dirait qu'on peut lui faire confiance pour ne pas lâcher l'affaire. Quant à savoir si réellement il y aura des suites, ma foi, on n'a qu'à faire confiance dans la justice de notre pays. Get a drummer son. Get a drummer son.
finit ce Canu Info par un agenda. Et alors, c'est vendredi, il y a une marche de nuit féministe contre les violences faites aux femmes. Donc le rendez-vous, c'est ce 24 novembre à 19h, place des Terreaux, pour une marche féministe non mixte contre les violences faites aux femmes. Une manif non mixte. Donc, c'est-à-dire sans mec cis, entre personnes qui subissent les violences de cette société sexiste. Et cette marche sera suivie à son arrivée, place de la Comédie, d'un rassemblement mixte, donc à 20h, une heure après, avec des prises de parole. Alors, allons-y, nombreuses pour la marche et nombreux pour le rassemblement. Et comme même dans les féminismes, je veux dire, il n'y a pas que chez les communistes ou les anarchistes, il y a des scissions et des désaccords politiques. Il me semble important de ne pas taire que le collectif Big Tape, qui est un collectif transpédéguine, bi, intersexe et queer et féministe, a refusé de signer l'appel à cette marche. Pourquoi ? Parce que le collectif qui est à l'origine de l'appel de la marche alternative libertaire peut tenir et a déjà tenu des positions abolitionnistes. Abolitionniste, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire contre qui veut supprimer le travail du sexe. Mais pour la Big Tape, il est important d'être aussi en soutien aux travailleuses du sexe et de ne pas contribuer à stigmatiser des personnes qui sont fortement réprimées dans cette société, qui ont aussi choisi ce travail-là. Et aussi parce que la seule identité présente dans l'appel d'une marche féministe est seulement celle de femmes. Il n'y apparaît pas les identités gouines ou lesbiennes ou trans. Celle de femmes trans apparaît très vite faite dans une phrase incompréhensible dans l'appel. Et les intersections, donc autour de la race et du sexisme, et l'orientation sexuelle et le sexisme, que ce soit dans l'appel ou les témoignages, vous pouvez lire sur rebellion.info l'article, sont inexistantes. Donc pour qu'il y ait politique, il est important de nommer les conflits. C'est pas juste pour foutre la merde que je dis ça, mais pour nous faire réfléchir collectivement, ce qui n'empêche pas une solidarité, une présence dans cette marche. Alors rendons-nous ce vendredi 24 novembre à 19h, place des Terreaux. Et puis j'en profite pour glisser un conseil de lecture au passage. L'article qui a été publié aujourd'hui de la revue Contretemps, au nom des droits des femmes, point d'interrogation, fémonationalisme et néolibéralisme. C'est un entretien avec Sarah R. Faris, qui est une féministe marxiste qui mène des recherches sur le fémonationalisme. Je peux réexpliquer ce que c'est le fémonationalisme. C'est la récupération à des fins racistes des questions du droit des femmes. Pour le dire un peu rapidement, qui se fait de plus en plus par des États, des politiques d'État, par le néolibéralisme et aussi par des féministes.
Est-ce que tu as un exemple ?
Par exemple, George Bush veut nommer ambassadrice des droits des femmes. Nancy, je ne sais plus comment elle s'appelle, une femme américaine anti-féministe qui est contre l'avortement. Et le fait même de créer une ambassadrice du droit des femmes, c'est questionnable en soi, parce que ça fait que l'Occident serait plus fort que les autres pour le droit des femmes, alors qu'il y a plein d'autres pays qui sont en termes de droits qui sont beaucoup mieux que les États-Unis sur la question des droits. Ça va comme exemple ? Et donc cette Sarah Faris vient de publier donc un bouquin qui s'appelle In the Name of Women's Rights, The Rise of Feminationalism, aux éditions Duke en 2017. Et donc cet article livre l'analyse de la convergence autour de la politique anti-islam de trois agendas politiques très différents: les nationalismes de droite, les féministes et les politiques néolibérales.
Certaines féministes.
Oui, voilà, certaines féministes. Bien sûr, mais les féminismes, c'est pour ça que c'est important de parler des féminismes et pas du féminisme, parce qu'il y en a de plus en plus et de tous bords. Sinon, dans mon petit agenda, je voulais vous proposer d'écouter la radio, mais pas Radio Canu, Fréquence Paris pluriel, qui est à Paris, donc sur le site rfpp.net. Il y a plusieurs féministes latino-américaines qui vivent actuellement à Paris, qui proposent 4 émissions de radio. Elles y présentent leur trajectoire collective et individuelle de femmes migrantes, exilées aux filles d'exilés, unies par leur engagement féministe. Et la dernière de la série aura lieu le 24 novembre de 15h à 16h30. Et c'est l'interview d'une camarade ayant travaillé sur l'exil des femmes chiliennes en France et Allemagne et leur engagement social et politique. Sinon, samedi à Lyon, il va y avoir un rassemblement contre l'esclavage en Libye suite au buzz de la vidéo qui a eu lieu en début de semaine dernière. Et une autre montagne, le jeudi 30 novembre au Ritablage, c'est un film documentaire de Noémie Aubry et Anouk Manja qu'il faut absolument, absolument aller voir. C'est sur les terres d'Anatolie, un dicton dit « Si l'un de tes yeux pleure, l'autre ne peut rire ». Et c'est des femmes qui vivent à Istanbul et qui sont aussi engagées comme Kurdes au Kurdistan, sur les luttes du Kurdistan de Turquie, qui parlent entre elles, et c'est des dialogues autour des questions de féminisme, de nationalisme, d'identité, etc. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler avant de le voir, et donc le 30 novembre au Rita Plage.
Et c'est 20h45, le son de laisser la place à Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Ciao.
Merci de nous avoir écoutés.
Bonne soirée. Ciao.